monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Voilà ce que Jésus nous dit, et dans cet évangile de Jean, il dit bien encore que quiconque... Alors, je vais prendre le chapitre 8, je pense, chapitre 8, verset 12, la parole directement. « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le Seigneur a bien fait briller sa lumière pour que nous qui étions dans les ténèbres, nous puissions marcher maintenant en nouveauté de vie, éclairés par la vérité, éclairés par la grâce, éclairés par l'amour, éclairés par la justice véritable. Tout cela, le Seigneur est venu le manifester dans le monde. Mais au chapitre 15, versets 22 à 27, nous voyons que, eh bien, la réaction n'a pas été unanime à sa venue et à la lumière qu'il faisait briller au sein de ce monde. Versets 22 à 27, « Si je n'étais pas venu et que je n'aurais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il y a donc ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme la lumière, comme la parole vivante de Dieu, comme celui qui amène la vie éternelle. Et puis, il y a ceux qui, tout en étant quand même dans une lumière, celle de la loi de Dieu, n'ont pas reconnu le juste, le saint, et qui par conséquent se sont condamnés. Simplement parce que ils n'ont pas vu en Jésus-Christ celui qui a apporté la lumière, celui qui venait de Dieu, celui qui était de Dieu, le Fils bien-aimé. Et plutôt que de lui dire « Oui, tu nous révèles le Père », eh bien, ils lui ont dit « Tu blasphèmes. Tu blasphèmes parce que tu te fais, toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Voilà tout l'enjeu de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, soit recevoir la lumière, soit s'aveugler face à la révélation. Jésus-Christ, en venant dans ce monde, n'a fait que du bien, et pourtant, il n'a pas été reconnu. Et nous sommes sauvés donc par la foi en Jésus-Christ, parce que nous le reconnaissons comme celui qui est venu de Dieu, et qui non seulement a fait du bien, mais a fait aussi l'expiation des péchés. Ça, c'est un thème qui est très difficile à amener, à faire comprendre dans le temps présent, où la notion de sacrifice et de réparation par le sacrifice s'estompe, est de plus en plus abandonné, et pourtant c'est le fondement même de la foi. Alors il arrive que la foi produise spontanément tous ses effets dans des cœurs simples. Dès la première annonce de l'évangile, il suffit de comparer ce qu'était Jésus et puis nos propres cœurs, et puis nous réalisons immédiatement l'énorme différence et en contraste notre péché et la nécessité d'être sauvé et purifié par Jésus. Et ceux qui reçoivent simplement l'évangile, eh bien, pour eux, le fruit, c'est une consécration de leur être, de leur âme à Dieu, et une bonne manière de vivre qui s'installe immédiatement. Et cela se vérifie donc chez des enfants, comme chez des adultes, des enfants qui peuvent avoir, dès leur plus jeune âge, par l'instruction de leurs parents, reçu les grâces de Dieu et marché immédiatement dans la voie du Seigneur. Ou des adultes qui ne le connaissaient pas, mais qui étaient dans une attente, qui a quelque chose dans leur cœur qui travaillait, ce vide en forme de Dieu, comme dit le philosophe Pascal. Et lorsque l'évangile leur est annoncé, eh bien, il vient vraiment combler ce vide et la personne reçoit et vit dans la grâce de Dieu. Et alors, leurs transgressions, on peut dire, sont rares. Oui. Ils marchent dans la simplicité, dans la justice, dans de bonnes œuvres. Leurs transgressions sont rares. D'autres reçoivent l'évangile, mais leurs cœurs sont mal affermis. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont intervenues dans leur vie qui rendent compliquée l'acceptation de l'évangile. Et par conséquent, leurs transgressions restent fréquentes. Oui. Dans les deux cas, cet accueil facile ou compliqué, bien, nous avons l'indicateur de la loi de Dieu pour nous permettre de revenir à Dieu et de trouver la solution, le pardon, la restauration, le rétablissement et la capacité de vivre une vie nouvelle. Oui, la loi intervient à ce moment-là pour nous éclairer. Si nous lisons dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Le peuple, il s'agit là du peuple d'Israël hein, qui possédait la loi. Ils étaient donc, je redis, enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée, la foi en Jésus-Christ. S'il n'y avait pas cette loi pour garder le peuple d'Israël, il n'aurait jamais compris les notions de justice, parce que la justice est partie intégrante du royaume de Dieu. Romains au chapitre 14, nous lisons le verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc ce royaume de Dieu est marqué du sceau de la justice. Et donc nous devons apprendre ce qu'est aux yeux de Dieu, donc la justice. Et la justice, c'est aussi simple que cela. La justice exige que toute faute soit réparée. Personne d'entre nous ne peut supporter qu'une offense lui soit faite sans qu'il y ait ensuite une réparation. Minimum, une excuse. Et s'il y a un tort, un dommage qui est causé, que justice soit faite avec réparation. Si vous avez un accident de voiture avec quelqu'un qui était en tort, vous allez demander à ce que la personne, par l'assurance qu'elle a, si elle en a une, si elle est en règle avec la loi, justement, remédie au tort qui vous a été fait. C'est simple, c'est très simple. Et alors, donc, à cause des transgressions, pour que nous puissions identifier les transgressions dans l'ordre spirituel et aussi moral, eh bien, le Seigneur, notre Père, a donné une loi pour qu'un jour soient engendrés des fils obéissants, des fils qui le glorifient par leur vie. Je lis Galates chapitre 3, versets 19 à 22 maintenant. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite, après Abraham, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il y avait été donnée une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. L'Écriture a tout renfermé sous le péché. Par la loi, nous avons été avertis, et nous sommes encore aujourd'hui avertis, exercés à la justice, pour que nos regards puissent se porter vers Jésus-Christ avec reconnaissance et soulagement lorsqu'il nous est présenté comme victime expiatoire pour le péché. C'est ce regard de foi qui fait passer la justice sur nos âmes. Dieu lui-même envoie sa justice sur ceux qui considèrent Jésus avec un esprit contrit et reconnaissant. Car mis au clair par la loi concernant leur péché, eh bien, il faut qu'ils trouvent où se trouve la réparation. Et cette réparation, eh bien, Dieu la leur présente en leur donnant Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est né sous la loi, est-il dit au chapitre 4, verset 4, toujours de Galates, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Nous puissions devenir ses fils et filles justes aux yeux du Père Céleste. » Et donc, en venant sur cette terre, le Fils de Dieu s'est présenté pour nous faire grâce de nos offenses, en prenant sur lui le châtiment de nos offenses. C'est la loi qui exige ceci. Nos offenses devant Dieu sont réparées de cette manière. Nos offenses devant les hommes doivent également être réparées dans l'humilité, la confession, lorsque nous avons mal fait. Par absence de châtiment ou inversement, des châtiments excessifs, parce que cela est largement présent aussi, des pères humains soustraient leurs fils au respect de la loi, bien souvent. Et de là, de nombreux désordres et iniquités dans la vie de ses fils. On peut même dire que la même chose des États, hein, lorsqu'ils laissent des dispositions légales être allègrement transgressées, ou inversement, lorsqu'ils entrent dans une répression excessive, il peut avoir le même phénomène contre-productif pour la vie sociale, la vie nationale. C'est le même schéma, en fait. Et donc, c'est une grande chose que de ramener ses fils qui ont été finalement pervertis, affaiblis, entamés moralement et qui tombent dans toutes sortes de travers. C'est une grande chose que de les ramener dans la conscience et l'obéissance à la loi véritable. Mais il n'est pas possible de les ramener autrement, de les sauver autrement. Et sauver leur vie misérable sur la terre. Et combien nous sommes confrontés à une multitude de personnes qui sont totalement, dont la vie présente est totalement détruite. Eh bien, il n'est pas possible de les ramener de leur vie misérable, mais aussi de les sauver pour l'éternité, sans leur faire connaître ce principe de la justice et de la réparation de la faute. Bien sûr que le salut éternel prime par la prise de conscience de la loi divine, de sa transgression et de la juste rétribution par la mort de Christ. Et là, vraiment, l'acceptation en pleine conscience de la mort de Christ, du châtiment porté par Jésus est primordiale pour le salut, à quelque niveau que nous soyons d'égarement moral. Il y a une rédemption par les meurtrissures de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. N'oublions pas les paroles donc qui nous sont données dans 1 Corinthiens chapitre 1 versets 21 à 24. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Chapitre 2, verset 2. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et enfin, au chapitre 15, les versets 1 à 4, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Voilà l'Évangile, l'œuvre du salut. Et vraiment cette acceptation du salut en Jésus-Christ suppose que nous ayons reçu pour notre part, compris la justice de la loi et la légitime colère de Dieu sur nos transgressions qui l'offensent. Vous savez comment Ésaïe a présenté l'Évangile au chapitre 53. Cependant, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien question ici de châtiment sur ces offenses qui étaient insupportables au Dieu créateur et très saint, au Dieu juste. Et quelqu'un s'est présenté. Et le prophète, 500 ans avant la venue de Jésus, donc présente, perçoit celui qui va être donné pour que l'offense soit couverte, pour que le péché soit effacé devant Dieu et qu'ainsi Dieu nous redevienne favorable. Dans Romains au chapitre 3, les versets 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Justice de Dieu, victime propitiatoire, certaines versions ont expiatoire, mais le terme plus précis c'est propitiatoire, qui est très simple à comprendre, puisque dans propitiatoire il y a propice, ça veut dire que Dieu nous est à nouveau rendu propice, rendu favorable, alors que jusqu'alors, à cause de nos offenses, Dieu détournait son regard de nous, Dieu avait sur nous un regard de colère à cause de nos offenses. Et Jésus-Christ s'est présenté pour détourner donc le châtiment de Dieu en le prenant sur sa propre personne, de sorte que Dieu nous redevienne favorable. Si donc nous comprenons ce message, bien sûr que nous le vivons spirituellement, chacun pour notre part devant Dieu, nous le vivons en quelque sorte religieusement, mais nous le vivons également, nous le transférons en quelque sorte dans nos relations humaines. Il est évident que chacun en s'humiliant devant Dieu se prépare aussi à s'humilier devant les hommes lorsqu'il a commis des offenses et qu'il enseigne aux autres à faire de même. Ainsi, les pères, donc, qui vivent de cette manière, enseignent à leurs fils à faire de même. Ils l'enseignent à leurs fils selon la chair, mais aussi à tous les fils potentiels, on peut dire, la même voie, hein, en parlant donc de ceux que nous désirons conduire au salut. Eh bien, ou bien ceux qui viennent juste de passer par la repentance, mais qui ne connaissent pas encore ce principe de totale réparation du péché, eh bien, nous sommes appelés à l'enseigner, les pères humains dans leur famille, à leurs enfants, mais les pères spirituels aussi, que chacun puisse, pour soi-même, parce qu'on ne peut pas devenir un père nous-mêmes devant Dieu sans avoir expérimenté nous-mêmes cette repentance et les meurtrissures de Christ pour notre propre péché. Mais ensuite, eh bien, nous continuons le même schéma, nous reproduisons, hein, dans nos relations et dans l'enseignement que nous apportons aux autres, le même principe de justice. Et si nous enseignons à un égaré la voie du salut, eh bien, nous lui enseignons aussi à reconnaître les justes rigueurs de la loi de Dieu sur sa vie, mais aussi les justes rigueurs parfois tout simplement de la loi humaine. Et nous lui enseignons à ce qu'est la juste loi. Nous lui enseignons qu'il n'y a pas de relativisme, de laxisme dans la relation avec Dieu ou dans la relation avec les autorités humaines. Mais nous lui enseignons aussi que la justice de Dieu n'est pas excessive. Il ne nous punit pas, il est écrit en proportion de nos fautes, parce que si cela était, personne ne pourrait subsister. Mais donc, il nous fait grâce de nos offenses dès que nous les confessons, lorsque nous venons à lui dans la repentance. Les fautes non reconnues et non réparées continuent à demander justice pendant longtemps et multiplient les obstacles et les difficultés dans le parcours des vies. Il y a cette mention, en fait, la loi de Dieu dans le Lévitique pose tous ces principes, hein, de l'expiation et de la réparation des fautes par le sacrifice. Je vous lirai dans, sans m'étendre trop, parce que Oui, faire l'étude biblique alors. Mais quand même lire dans le livre du Lévitique, donc au chapitre 5. Verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et soit plus tard, il sera coupable. Ici, on est dans un domaine spécifique quand même à la loi de Moïse, où la pureté du camp devait être telle que même au niveau de la pureté physique, cela devait se manifester. Mais le principe, c'est que ou alors ensuite, lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Un peu plus loin, parce qu'on ne va pas lire le chapitre entier. C'est ainsi, verset 13, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Et je reprends au verset 21. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Ici, donc, c'est un principe à la fois de confession du péché, mais aussi de réparation dans la mesure où cela est possible, parce qu'il s'agit ici de restituer aussi la chose volée, et puis d'expiation par le sacrifice. Il faut les trois choses pour que l'affaire soit réglée devant Dieu. Il faut que le pécheur reconnaisse, il faut qu'il restitue et il faut qu'il offre le sacrifice. Et pour offrir le sacrifice, Dieu a mis en place le sacrificateur qui va pouvoir donc faire ce geste devant Dieu pour que le péché soit totalement couvert. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la vie spirituelle également, dans la vie morale, dans nos propres vies. Nous n'avons plus ce système de sacrifice par des animaux. Nous n'avons plus non plus exactement les références de la loi de Moïse concernant les impuretés physiques, mais sur le plan moral et spirituel, le même principe demeure. Le péché doit être couvert, la faute doit être avouée, les choses dérobées doivent être restituées, et à ce moment, le sang de Jésus-Christ, qui est une victime expiatoire pour tous nos péchés, alors Le sang de Jésus-Christ est efficace pour que Dieu nous fasse grâce, pour qu'il efface le péché et pour qu'il nous permette de marcher en nouveauté de vie. C'est probablement par négligence de ce principe de vie spirituelle dans la foi que bien des vies chrétiennes ne progressent pas, ne prospèrent pas. Nous devons prendre garde à cela et mettre en œuvre ces enseignements. Amen.